Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Il est 8h et c'est l'heure du journal. Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est sport ce matin. C'est la grande transhumance qui commence pour les 17 000 supporters du PSG qui prennent la route de Budapest où Paris jouera demain, vous le savez, sa finale de Ligue des Champions. On vous donne les toutes dernières informations ce matin sur RMC. Vous allez voir que les compétitions sportives sont annulées ou modifiées ce week-end avec les fortes chaleurs et que le tournoi de Roland-Garros est plus ouvert que jamais au lendemain de l'élimination du grand favori Yannick Sinner.
C'est ce matin que le gros des troupes prend la route de Budapest.
Alors la route ou l'avion, comme ses supporters du PSG parmi les premiers à décoller ce matin à l'aéroport de Beauvais à la veille de la finale de Ligue des Champions.
C'est un sacré périple parce que l'année dernière on était à Munich mais on n'a malheureusement pas eu de place. Et là cette année on y retourne et on a tous des places. Et donc là autant dire que l'excitation est à son paroxysme qui nous coûte dans les 3000 euros. Donc voilà, ça fait quand même un sacré budget. Hein. Il y a quelques SMIC qui partent mais c'est ce qu'on disait. Les souvenirs ils seront gravés à vie dans la mémoire. Quoi.
À Budapest, prêt pour la finale. Puis on va espérer gagner. Hein.
Il faudra bien démarrer le match je pense. Et ça sera à mon avis quand même serré au niveau du score. Voilà, mais il y a quand même plus de talent en attaque côté parisien, donc voilà, on espère que nos étoiles vont briller devant pour nous faire gagner le match.
Alors ces étoiles justement, eh bien elles décolleront, elles aussi les joueurs du PSG prendront l'avion vers 10h ce matin. Dembélé et Hakimi sont bien du voyage avant de s'entraîner cet après-midi dans le stade de Budapest où se jouera la finale que vous vivrez demain, vous le savez, sur RMC toute la journée. Hein, même vous n'allez rien manquer à l'écoute d'RMC de cette journée et de cette quête du doublé européen qui va mobiliser 22 000 policiers et gendarmes dans toute la France et 8 000 rien qu'à Paris et en banlieue. Avec un message de fermeté qui est répété par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans un message envoyé cette nuit à tous les préfets pour que la soirée ne soit pas ternie par des violences comme c'était le cas l'année dernière, chacun s'en souvient. Et d'ailleurs, ce matin, Pierre Bazin du service police-justice à RMC, vous êtes avec un policier qui sera mobilisé pour cette finale.
Demain, Guillaume sera positionné au cœur de la capitale avec ses collègues. CRS depuis plus de 20 ans, il sait quels sont les risques lors de cette soirée.
On sait faire, on a quand même l'habitude d'être engagé sur des événements d'une telle ampleur. Bon, on aura toujours les personnes qui viennent perturber l'événement, donc on aura les casseurs, les personnes qui veulent un affrontement avec les forces de l'ordre. Vu ce qu'on a pu voir sur les événements passés, on sera certainement confronté à ces situations. Il y a des groupuscules qui sont de plus en plus violents et de plus en plus organisés.
Et puis cette année, le match a lieu plus tôt, donc la troisième mi-temps sera certainement plus longue, ce qui risque de mettre les organismes des forces de l'ordre à rude épreuve.
Ça va être une journée où il va faire très chaud, parce que bon, la météo elle prévoit plus de 30 degrés encore. Ça fait une semaine qu'on travaille avec ces chaleurs. On sait que ça va être une journée longue et assez difficile.
Et pour éviter les mêmes images que l'année dernière, les autorités ont décidé de déployer 2500 policiers et gendarmes supplémentaires.
Et d'autant qu'il y a d'autres gros événements comme le concert de Damso à Nanterre et d'Aya Nakamura au Stade de France. Alors on attend 27 degrés demain à Budapest au moment de la finale, nettement moins qu'en France où on va encore vivre une journée de forte chaleur à peu près comme hier avec plus de 36 degrés à Bordeaux, plus de 37 ont été recensés à Narbonne, Béziers, Perpignan. Il faisait quasiment 38 degrés à Angoulême. Ce matin, il y a toujours 11 départements qui sont en vigilance orange pour cette chaleur. Il y aura encore beaucoup de monde donc à la plage ce week-end. Et d'ailleurs, la surveillance sera renforcée sur la côte atlantique. Un hélicoptère de la sécurité civile prépositionné à Lacanau après une série de 4 noyades mortelles en Gironde. Et alors, de nombreux organisateurs d'événements sportifs annulent ou revoient leurs plans. Je vous le disais là pour les compétitions qu'ils ont prévues ce week-end pour ne pas revivre les mêmes drames que le week-end dernier avec énormément de malaise et même 2 décès durant des compétitions à Paris et Lyon. On en a parlé sur RMC. Et Antonin Audion, vous avez enquêté, vous avez passé des coups de fil pour RMC.
Angers, c'est sans aucun regret qu'Olivier Henault a annulé la course de 10 km prévue demain qu'il organisait depuis de longs mois.
Là, on était persuadés qu'on aurait pu aller à la catastrophe. Il était préférable de faire comme ça et de ne pas se retrouver avec des urgences remplies de personnes ou pire que ça, un décès. On n'est que sur du sport et c'est pas très grave. Ce dôme de chaleur, là, il dure une semaine. Il vaut mieux annuler un événement que d'aller à la catastrophe.
Plus au sud, dans la Vienne, Arthur Gonnet organise un tournoi de foot pour enfants et lui aussi est inquiet à cause des 30 degrés annoncé demain.
On veut pas qu'il y ait de problème sur notre tournoi, donc que ce soit insolation ou des personnes qui fassent des malaises. Sachant qu'en plus, là, nous sommes sur un public jeune.
Donc c'est des enfants de 10 à 13 ans, donc on doit être deux fois plus vigilant.
Pour éviter tout problème sans annuler le tournoi, il faut trouver le moyen de s'adapter.
On a prévu de raccourcir les temps de jeu, passe de 25 minutes par match à 15 minutes de temps de jeu. On va mettre des points d'eau en place, des robinets, des bassines d'eau pour permettre de se rafraîchir.
Les activités sportives en plein air sont déconseillées à partir de 32 degrés par le ministère des Sports.
Et alors, est-ce que ça va chauffer? Deux manifestations sont prévues ce matin et à la mi-journée sur le parvis de la Défense, près de Paris, avant le rendez-vous de l'année chez Total, qui réunit aujourd'hui ses actionnaires pour son assemblée générale annuelle sur fond de critiques environnementales et bénéfices records avec la guerre au Moyen-Orient. Martin Lange, vous avez joint pour RMC des actionnaires qui en ont marre de toutes ces critiques.
Denis est actionnaire de Total Energy depuis une quinzaine d'années et il ne comprend pas les polémiques entourant les bénéfices du géant pétrolier.
On ne peut pas reprocher à Total de fournir ce que les gens demandent.
D'autant qu'en plafonnant les prix à la pompe, la major a démontré sa bonne foi, selon le retraité.
Je crois que c'est la seule compagnie en France qui fait ça. Elle n'est pas obligée de le faire.
Il sera donc présent cet après-midi à la Défense.
Total est un fleuron de l'économie française. On devrait être fiers de cette compagnie. Je n'ai jamais accepté ce Total bashing. Je trouve qu'il est injustifié. Si aujourd'hui Total devait disparaître, ce serait une catastrophe nationale.
Il pourrait croiser quatre associations de défense de l'environnement qui se sont donné rendez-vous sur le parvis de la Défense pour réclamer une plus grande taxation de Total Energy. Fanny Petitbon est responsable France de l'ONG 350.
Donc c'est le moment un peu de braquer les projecteurs sur ces gros pollueurs. C'est pas les taxer juste pour le plaisir. C'est les taxer parce qu'elles ont une responsabilité dans les différentes crises qu'on est en train de subir, que ce soit énergétique, climatique et du pouvoir d'achat.
Une taxe qui permettrait, selon ces associations, de financer des aides pour les plus impactés par la crise, ainsi que la transition énergétique.
Et sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise? D'ailleurs, ce matin, la Roumanie affirme avoir été touchée par un drone russe dans une ville à la frontière ukrainienne. Roumanie, pays de l'OTAN, qui condamne, je cite, l'inconséquence de la Russie. Réaction à l'instant de la présidente de la Commission européenne. Elle dit qu'une nouvelle limite est franchie. Et alors, on se demande ce matin qui est le nouveau favori à Roland-Garros. Le tournoi semble plus ouvert que jamais cette année, avec l'hécatombe chez les favoris. Il y a quand même 5 têtes de série qui sont tombées hier, et notamment l'Italien Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, à qui le tournoi semblait pourtant promis, mais qui a donc été éliminé dès le deuxième tour, Léna Marjac.
Blessure, chaleur ou autre, Yannick Sinner est resté assez flou dans ses explications. Ce qui est sûr, c'est que l'Italien a subi une énorme défaillance physique. Il menait 2-7-0, 5-1 dans la troisième manche, puis son corps a lâché, défaite en 5-7.
Au milieu du troisième set, j'ai commencé à prendre un vrai coup de massue et je n'ai pas réussi à m'en sortir. J'ai essayé de récupérer pendant le quatrième set que j'ai laissé filer pour bien repartir dans le cinquième. C'était vraiment bizarre parce que je n'avais pas d'énergie. Je ne pouvais pas faire plus, honnêtement.
Le numéro 1 mondial était jusque-là invaincu sur terre battue depuis le début de la saison. C'est un vrai séisme de le voir perdre prématurément.
Complètement inattendu, très surprise aussi.
Là, pour le voir jouer à ce niveau-là, à la fin, c'était un peu désolant. Ouais.
Tout le monde le voyait au moins aller jusqu'en finale. Et ça arrive, c'est la loi du sport.
Plus de Sinner à Roland-Garros, plus d'ultra favoris donc. Le tableau s'ouvre grandement. Qui peut aller s'imposer porte d'Auteuil? Florent Serra, consultant RMC Sport, a sa petite idée.
Peut-être l'année de Zverev aussi. Hein. Il attend depuis longtemps. Pour s'il n'y arrive pas cette année, quand est-ce qu'il va y arriver?
L'année d'Alexander Zverev. Bref, pourquoi pas? Mais n'oublions pas Novak Djokovic, 39 ans, en mission pour aller chercher un 25e Grand Chelem.
Il jouera tiens aujourd'hui pour le début du troisième tour avec un seul Français, Quentin Alice, face à l'Allemand Alexander Zverev. Il n'y a pas que le PSG en football, il y a aussi Nice et Saint-Etienne qui vont disputer ce soir à 20h45 le match retour de leur barrage pour une place en Ligue 1. On se souvient du triste nul 0-0, c'était mardi soir. Et c'est aussi le début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine ce matin pour préparer la Coupe du Monde qui commence en quelque sorte aujourd'hui. Ils sont attendus dans la matinée, à l'exception évidemment des finalistes des Coupes d'Europe.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09, on parle économie et canicule.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Oui, parce que ça nous coûte cher, hein, ça nous coûte cher au-delà de la difficulté pour la santé. Emmanuel Le Chip, bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Moins de croissance, plus d'inflation, plus de déficits publics. La facture de ces vagues de chaleur en Europe s'annonce salée.
Et oui, les épisodes de forte chaleur, tenez-vous bien Apolline, ont été multipliés par 7 depuis les années 80 et le nombre moyen de décès par canicule a quintuplé. C'est de ce constat de départ que partent les experts d'Iron Street pour évaluer l'impact économique de toutes ces canicules, sachant qu'en Europe, ces épisodes frappent des pays à la démographie vieillissante, donc avec plus de gens fragiles, dans des logements plus anciens que sur les autres continents et équipés à 19% seulement de climatisation contre 90% aux États-Unis. Et donc, ces canicules coûtent cher en croissance, en pesant notamment sur la productivité des salariés. Il faut savoir que pour chaque degré au-delà de 30 degrés, eh bien, c'est 3% de productivité perdue. L'énergie coûte plus cher, l'agriculture souffre, l'inflation est plus élevée, les ménages et les entreprises dépensent moins. D'ici à 2030, la perte d'activité économique pourrait atteindre 240 milliards de dollars. Pour la France, ça veut dire plusieurs dixièmes de points de croissance par an, et la France serait le pays d'Europe le plus affecté, puisque le coût serait de moins de 150 milliards en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Moins de croissance, plus d'inflation, des dépenses de santé et des réparations d'urgence plus élevées, les canicules détérioreront aussi les finances publiques avec des déficits creusés de l'équivalent de 0,5 point de PIB. Ça veut dire, c'est pareil, c'est une quinzaine de milliards d'euros chaque année de déficit public qui proviendront de ces canicules.
Mais Manu, ça c'est quand même c'est un scénario ultra pessimiste, ça c'est si on fait rien.
Non, pas du tout, parce que d'ici 2030, tout est joué. Déjà, en Europe, on privilégie plutôt les politiques d'indemnisation de ces canicules que les politiques d'adaptation à la chaleur. Et puis, toutes les politiques de rénovation urbaine à grande échelle, de transition énergétique, de mobilité propre, tout ça monte en puissance, mais on est encore dans la phase où ces politiques coûtent plus qu'elles ne rapportent sur le plan écologique comme sur le plan financier. Raison de plus pour ne pas traîner, parce que si vous imaginez ça d'ici à 2030, imaginez les coûts après 2030.
Emmanuel, comme tous les jours, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend ?
Je n'ai que des bonnes nouvelles aujourd'hui,
ça
à
descend.
La veille du week-end. Le gazole, on casse la barre des 2,10. 2,09, ça y est, on est passé dessous. 6 centimes de baisse en une semaine. Le sans-plomb 95, la détente s'amorce. Enfin, on est à 2,04 € le litre. C'est 2 centimes de moins qu'il y a une semaine. Alors le pétrole, évidemment, avec cette perspective d'accord de paix, on est à 91 $ le baril. On est au plus bas depuis. Vous savez, il y avait déjà eu un espoir précédent le 17 avril. Bah, pareil, on était tombé à ce niveau-là. Et puis, le gaz est à peu près stable à 45 € le mégawatt-heure. Mais vraiment que des bonnes nouvelles sur les prix des carburants.
Merci, Emmanuel. 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
8h12 sur RMC. Restez bien avec nous. Dans un instant, Arnaud Demanche revient pour nous faire rire. À 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera l'animateur Arthur. On connaît évidemment ses rires, on connaît sa voix et on découvre aussi ses larmes et la souffrance des Juifs de France depuis le 7 octobre. Il nous le raconte dans un livre. Il sera donc mon invité à 8h30. Juste après, la semaine face à Canteloup, Nicolas Canteloup, c'est à 8h50. On se rejoint dans un instant. À tout de suite, 8h13.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Arnaud de Manche est avec nous, 8h16 sur RMC. Bonjour Arnaud.
Oh oui, il a failli pas être là, Pauline. J'ai chaud.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez failli fondre ?
Mais j'ai fondu. Bah, j'ai perdu 12 kilos de sueur. Je fonds, il fait chaud. Je crève de chaud, les amis. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, crève. C'est atroce. Vous avez vu que Patrick Balkany a été condamné à de la prison ferme hier pour détournement de fonds publics. À mon avis, il a tout avoué exprès hier. C'est son avocat qui lui a dit, si tu balances tout, tu te retrouves à l'ombre pour 3 ans. Il a dit, ok, pas de problème. Tu sais, à 77 ans, tu prends pas de risque. Hein. Nous, dans notre studio, on a Victor Pourchet qui a une énorme moustache. Oui. Mais comment il fait pour pas crever avec ça ? C'est littéralement un morceau de laine scotché sur le visage. On dirait un boudin de porte en mohair. Vous ne respirez que de l'air chaud avec ça sous le nez. Je serais mort à votre place. Toute mon admiration, mon ami.
Merci.
Hier, j'ai regardé un petit peu Roland Garros. Oui. Là aussi, comment font les gens pour rester 5 heures en plein cagnard ? Pour voir quasiment que les Français perdre en plus. Il nous reste Moïse Kouamé, mais pour combien de temps ? On est quand même sympa, nous les Français. Chaque année, on organise un tournoi sportif pour voir gagner les autres pays. Voilà. Et on applaudit comme des cons. Voilà. Voilà, c'est super. Bon, après, personne va à Roland-Garros pour le tennis. Non, Roland-Garros, c'est autre chose. C'est un endroit où tu payes 18 € un Perrier rondelle. C'est un endroit où tu vas pour te faire prendre en photo, pour pouvoir dire « j'appartiens à la haute société et j'ai du goût ». Non, Martine, ton CE a eu des invitations et vous avez tous le même chapeau. C'est ça la réalité. Alors tiens, tant qu'on parle de sport, samedi, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Et en cas de victoire, les bagarres traditionnelles sont prévues sur les Champs-Élysées, à ne pas louper. La mairie de Paris hésite encore entre organiser une fête ou directement déclarer l'état d'urgence. Vous savez qu'ils ont organisé une fausse exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand juste pour canaliser les fans quelque part pour sauver des vitrines.
Il est là.
La tour Eiffel va clignoter en bleu et rouge à cause des reflets, des gyrophares, des ambulances et des cartes de CRS. Et lundi matin, les habitants du 7e vont se réveiller. Charles Hubert, le PSG a gagné ou perdu ? Attendez Chantal, je regarde par la fenêtre. Bon, bah, le Land Rover a cramé, ça veut dire qu'ils ont gagné, j'imagine. On a
gagné. Alors, selon le porte-parole du ministère iranien de la Santé, le guide suprême Mojtaba Khamenei n'aurait subi que des blessures superficielles.
Oui, on l'a pas vu depuis 3 mois, il est infoutu de prendre la parole, mais il a des blessures superficielles. Ça doit être le même communicant qui a dû appeler Tchernobyl un léger problème de chauffage. Oui. Le Titanic avait un petit souci d'étanchéité.
Voilà.
Et le dernier quinquennat de Macron est une demi-réussite, finalement.
Voilà.
Ça sent le communiqué de chez Bullshit Crisis Communication, une division spécialiste de la communication de crise chez McKinsey. Ok, Mike, on a une crisis en Iran. Alors déjà, briefing. Mike, de quoi souffre le guide suprême ?
Oh bah tu sais, Mike, il souffre pas beaucoup. Hein. Il est dans le coma, il est à moitié mort.
Ok, Mike, on va dire qu'il a des blessures superficielles, hein, des superficial blessures.
Yes. Blessures.
Oh oui, t'es un génie, Mike.
Moi, toi aussi, Mike.
Non, surtout toi, Mike.
Merci, Mike. Merci à tous les Mike. On peut facturer ça 9 millions et s'applaudir bien fort. Et maintenant, je propose qu'on fasse l'amour tous ensemble. Voilà, mettons-nous tout nus, juste, on garde les cravates, on reste corporate.
Non, pas de problème, Mike. Je vais faire l'hélicoptère avec ma cravate. Non.
Tant mieux. Le communiqué est tellement rassurant.
Pas très ambiance iranienne.
Le communiqué est tellement rassurant, on s'attend presque à ce qu'ils écrivent et son bras repoussera normalement dans 6 semaines. Et encore, il parle pas de sa tronche. Alors qu'il peut pas parler, il doit lui rester 5 dents et 11 cheveux. Le gars, c'est Michel Houellebecq. Mais vous allez voir que...
On le salue.
Mais vous allez voir, on l'a pas vu arriver, mais vous allez voir que le prochain communiqué, ça va être le guide suprême a été légèrement irrité au visage après un peeling et il va réapparaître avec un casque. Ça va être le Daft Punk du Moyen-Orient. I run the world. Ça va être horrible.
I run the world. Le dictionnaire Robert lance un assistant en intelligence artificielle. Dis-moi Robert.
Oui.
On peut lui poser toutes les questions sur la langue française.
Oui. Dis-moi Robert. Ça fait un peu pilier de comptoir à qui tu poses des questions quand t'es raide bourré. Tu sais, là, c'est sur la langue française. Et ben, ça sera... Dis-moi, Robert, est-ce que les vieilles sirènes dans l'océan, elles finissent seules avec des poissons-chats ? On ne sait pas ? Dis-moi, Robert, est-ce que les flamènes couchent le premier soir ? Dis-moi, Robert, si on mange un pépito à minuit, est-ce que c'est un pépitard ? J'ai passé énormément de temps dans les bistrots, j'en ai collecté des trucs. Ah non, mais c'est bossé. C'est bossé en temps de canicule, mais c'est bossé, quoi. Et le dictionnaire Larousse, lui aussi, va lancer un assistant en IA. Dis-moi, Larousseau.
Dis-moi, Larousseau.
C'était alambiqué et ça servait à rien. Je voulais juste un prétexte pour voir Apolline et Élise s'enjailler sur la chanson.
Ah,
je sais que Géraldine, c'est plus que heavy metal.
Ça marche.
Et bon week-end.
Merci beaucoup, Arnaud, on vous retrouve tous les jours, évidemment, en direct, mais aussi en podcast et en tournée. Il va sur le terrain.
En Iran.
Non, pas en Iran, mais il va à Nice, à Lille, à Rennes, à Reims, à Montpellier, à Bordeaux, à Jonzac, à Toulon. Et c'est un spectacle RMC. Il est 8h21. Tiens, il y a Thierry qui nous appelle de Saint-Sauveur-d'Aunis en Charente-Maritime. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Comment ça va? Vous êtes couvreur. Vous avez chaud?
Oui, il fait chaud.
Vous êtes déjà au boulot là?
Je suis en panne de véhicule, mais j'étais parti pour aller au boulot.
En panne de véhicule? Sous la chaleur?
Oui, il a eu chaud, je crois bien.
Ah, il a eu chaud.
Il a eu chaud aussi.
Comment vous allez faire là? Vous attendez quoi? Vous attendez qui?
J'attends qu'il refroidisse un peu, j'ai remis de l'eau, puis je vais aller jusqu'au dépôt, puis après, mon patron avisera. Non, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que dans un pays où on veut tout réglementer, on ne réglemente pas le travail par température extrême. Je m'explique. Dans le bâtiment, les employeurs payent une cotisation obligatoire pour les intempéries. Les intempéries, ça inclut la chaleur, la pluie, tout ça. Il n'y a quasiment aucun employeur qui fait marcher cette intempérie. Alors, moi, on ne m'oblige pas à aller travailler, hein, on est d'accord. Hier, j'ai bossé, il faisait 42 degrés à l'ombre, et sur les tuiles, il faisait 65 degrés.
Ouf.
Et là, si vous n'avez pas travaillé, bon, je n'ai pas d'employeur comme ça, mais c'est certaines boîtes, quand vous n'avez pas travaillé pour ça, vous êtes mis de côté, puis à la première occasion, on vous vire. Donc, dans un pays où on réglemente tout, on n'a pas encore réglementé la température à laquelle on a...
Le droit ou pas le droit de travailler. Alors, je crois qu'il y a vraiment un seuil maxi, mais c'est rarissime. En effet, vous avez raison que ce soit vraiment utilisé. Merci beaucoup, Thierry. On espère que la voiture va redémarrer. Bon, on est ensemble. On est là, de toute façon, Thierry. Donc, vous pouvez continuer à écouter RMC en attendant que la voiture refroidisse. Merci beaucoup, Thierry, d'être passé par le 32-16. Dans un instant, mon invité, ce sera l'animateur Arthur. Il publie un nouveau livre. Il se confie sur l'antisémitisme, sur le boycott des artistes. On y revient dans un instant. Son regard sur notre époque. Arthur, c'est dans le face-à-face. C'est sur RMC et BFM TV, 8h23.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Arthur, Jacques et ses bagues, c'est sous ce nom-là que vous êtes désormais non seulement animateur mais aussi écrivain et vous publiez ce nouveau livre, Même la nuit ne veut pas de moi. On connaît votre voix, vous êtes animateur, vous êtes dans le salon des Français depuis toujours, j'allais dire. Et désormais, on connaît aussi vos états d'âme, on connaît aussi vos larmes, on connaît vos tristesses. Vous étiez l'homme qui rit et vous êtes un peu devenu l'homme qui pleure ou en tout cas qui ne dort plus. Comment ça va vraiment?
C'est intense. On va dire que la période est intense parce que j'ai une vie qui est un roller coaster et depuis 2 ans, on va pas se mentir, c'est intense, très
depuis
intense.
Depuis 2 ans, depuis le 7 octobre.
Oui, parce que c'est une date qui m'a marqué, qui continue à me marquer et qui continue à marquer beaucoup de monde d'ailleurs.
Votre livre, il s'ouvre sur un cauchemar. J'ai plein de questions à vous poser sur notre époque, sur le regard que vous posez sur les clivages, les nouveaux clivages qui se sont installés, qui déchirent la société, c'est ce que vous dites. Votre livre, il s'ouvre sur un cauchemar. Vous, dans un tunnel, la mort, la sécheresse, vos impressions au réveil, c'est presque comme si la nuit, vous preniez vous-même en quelque sorte la place qui a été celle des otages, qui ont été retenus dans les tunnels du Hamas, comme si vous-même, vous étiez otage. Vous vous réveillez, mais pas complètement.
En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai monté des documentaires, notamment sur le massacre du Festival Nova, et j'ai passé énormément de temps pendant 2 ans avec pratiquement toutes les familles d'otages. Et j'ai aussi rencontré les otages après leur libération. Et j'ai écouté leurs témoignages, j'en parle dans le livre, j'ai assisté à des séances de psy, des séances de...
Vous racontez une sorte de groupe,
oui,
de parole,
oui,
où chacun raconte ceux qui ont vécu au plus près la souffrance.
Exactement.
Il y a cet homme qui raconte avoir tenu les derniers instants de vie, la main d'un enfant, une main encore tiède qui ensuite, soudain, à lâcher, d'un enfant qui avait été massacré dans les kibbutz. Vous racontez ces moments-là. Quand vous l'écrivez, quand vous écrivez 2 livres en moins d'un an, est-ce que c'est parce qu'au fond, vous vous dites, mais je comprends pas qu'on nous comprenne pas?
En fait, j'ai l'impression qu'on parle dans le vide. J'ai l'impression que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe en ce moment, de la bascule qui s'est produite après le 7 octobre, de la montée folle de l'antisémitisme. Alors ce sont des livres, mais c'est aussi un journal en fait. Et donc j'ai écrit
avec des morceaux de vie,
exactement,
des morceaux de moments.
Et le premier s'est arrêté. Exactement, le premier s'est arrêté le 1er octobre. Et j'ai été frustré de ne pas parler de la libération des otages pour lesquels je m'étais battu. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ce deuxième livre. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que et le monde avance et c'est tant mieux. Mais il se passe des choses folles.
Mais quand vous dites, j'ai voulu raconter aussi dans ce deuxième livre la libération des otages. On a quand même un peu l'impression, parce que vous la racontez, la libération des otages, comme d'un moment évidemment de joie, mais d'espoir aussi. Et puis ensuite, finalement, le livre continue en se disant, mais en fait,
ça n'a rien changé.
Les gens n'ont pas compris. C'est ça votre interrogation.
En fait, mon interrogation, c'est d'abord, on pensait que à la libération des otages, ce qui est le cas, la guerre allait s'arrêter et que de part et d'autre, aussi bien les populations palestiniennes que les populations israéliennes allaient commencer leur deuil et allaient commencer à se reconstruire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un déferlement de haine mondiale qui ne s'arrête plus parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, malheureusement, mais malheureusement, les populations sont toujours en souffrance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une haine qui est une orgie antisémite qui est en train de déferler sur la planète et j'ai l'impression que tout le monde ferme les yeux.
En fait, c'est un cauchemar réveillé,
oui, exactement.
Votre livre. C'est
exactement.
Un cauchemar réveillé.
Exactement. Chaque matin, j'ouvre les réseaux sociaux, je veux dire, la haine est banalisée et je me dis, mais quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'on va expliquer qu'on ne peut pas aujourd'hui à l'entrée d'une fac avoir des banderoles interdites aux sionistes? Enfin, ça ne peut pas devenir normal.
Interdit au sionisme, on va revenir aussi sur les appels au boycott. Johann Sfar, par exemple, qui est ce dessinateur hyper populaire, mais qui se retrouve
pris dans un
appel au boycott. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute ce qui s'est passé là, juste il y a quelques jours, sur une plage à Deauville. Cette vidéo, je voudrais que vous la regardiez, que vous l'écoutiez quand vous êtes à la radio. Écoutez les mots, c'est juste sur une plage, un homme qui traverse au milieu de tous ceux qui sont là, juste en famille, sur la plage, écoutez.
Il y a un juif ici qui part, j'encule ça, il va t'amener la pute pour avoir ta chance, sale salope. Visite ta mère, tu vas voir. Dans ta gueule, dis-moi dans ta chute. Il y a un juif ici qui part, j'encule ça.
Il s'adresse à la foule et il crie « Ils sont où les juifs ? C'est qui les juifs ? Ici, ferme ta gueule, c'est qui les juifs ? Ils sont où les juifs ?» Il s'en prend à la population, là, sur la plage.
Mais tranquillement, c'est complètement fou, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de... Les langues se sont déliées, on a ouvert une espèce de boîte de Pandore qu'on n'arrive plus à refermer, et aujourd'hui, quelqu'un peut marcher sur une plage et hurler « Où sont les juifs ?», les insulter, mais c'est pareil dans les facs, c'est pareil dans le métro, c'est pareil dans la rue... tous les jours, partout dans le monde. Et alors, ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics font pas leur travail, que je crois qu'il a été arrêté, ce jeune homme.
Alors, il a été arrêté. Le parquet de Lisieux a ouvert une enquête pénale à la suite, je cite, des insultes et des menaces de mort à caractère antisémite proférées donc à Deauville. Aucune garde à vue pour l'instant, mais en effet, une plainte a été déposée une enquête sera ouverte.
Mais ce qu'il faut, c'est qu'il aille en prison, jeune homme. Il soit condamné, en tout cas, qu'il y ait une condamnation pour montrer l'exemple, pour que les autres qui auraient la stupidité de faire la même chose réfléchissent avant de le faire. On a l'impression que les gens oublient que l'antisémitisme c'est un délit. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit.
Tant que chacun restera enfermé dans sa douleur particulière, écrivez-vous, dans son indignation sélective, son silence confortable, les tyrans, eux, continueront de prospérer. L'empathie n'est pas un privilège identitaire, c'est une responsabilité universelle. Au fond, vous dites, chacun pleure sa propre petite communauté.
Exactement.
Et il n'y a plus ce moment de vivre ensemble. On peut aussi quand même... vous le reprochez à vous. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de vous enfermer dans votre douleur ?
Alors, pas du tout, parce que j'ai la chance de faire des conférences régulièrement depuis la sortie de mon livre. Et ce que je dis, par exemple, quand je fais une conférence devant une communauté juive, je leur dis, si vous voulez qu'on reçoive de l'empathie, il faut savoir en donner. Et donc, le premier exemple, c'est par exemple, quand il y a eu ces 40 000 personnes, ces 40 000 jeunes qui ont été massacrés en Iran, je leur dis, il faut aller à la manifestation. Nous devons manifester notre empathie pour les autres. On ne peut pas...
Votre livre se termine d'ailleurs sur l'Iran et sur votre espoir que le régime en Iran tombe.
Mais j'espère bien pour les Iraniens et j'espère bien pour le monde, parce que c'est l'Iran qui finance tous les proxys, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit les Houthis. Toutes les guerres, toutes les attaques terroristes au Moyen-Orient sont financées en majeure partie par l'Iran. Il faut que ça cesse. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'empathie n'a pas de drapeau. Voilà. Mais le problème, c'est que si vous dites ça, vous devenez clivant alors que vous ne l'êtes pas. Et c'est exact. Par exemple, quand vous dites, je le dis, là, je me fais insulter depuis 2-3 jours parce que j'ai dit, on peut avoir de l'empathie, et j'en ai, pour les souffrances du peuple palestinien, et reconnaître que le Hamas est un mouvement terroriste horrible, comme on peut avoir, et on doit avoir de l'empathie pour le peuple israélien, et reconnaître que parfois, certains de leurs hommes politiques font des conneries. Voilà. C'est ça le truc.
Vous voulez dire, on peut aimer un pays sans aimer ses dirigeants?
Mais bien entendu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait un amalgame.
Vous n'êtes pas aidé. C'est vrai que Benjamin Netanyahou, Ben Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, Bezalel Smotrich, la France elle-même a décidé d'interdire la venue sur le sol français du ministre de la Sécurité intérieure israélien.
Mais de toute
façon... Comment vous vivez ça, vous?
Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un deux poids deux mesures. Il y a quand même des guerres partout dans le monde. Je vois pourquoi on ne condamne pas, par exemple, le Sénégal, parce que aujourd'hui les homosexuels sont arrêtés les uns après les autres. Pourquoi il n'y a pas une condamnation générale du Sénégal? Et d'ailleurs, pourquoi? C'est comme si aujourd'hui, moi, on m'attaque tous les jours parce que je suis juif, donc je serais censé être un soutien du gouvernement israélien. Et pourquoi on ne dit pas aux célébrités sénégalaises, ah ben vous êtes soutien d'un gouvernement? Vous comprenez ce que je veux dire?
Il y a une obsession.
Je veux dire, 80% des sujets internationaux
internationaux sont focus sur Israël. Pourtant, il y a une guerre au Soudan, il y a une guerre au Nigeria, il y a une guerre. Le monde est focus sur ce petit pays. Et d'ailleurs, c'est bien dommage pour les autres, parce qu'on dit toujours no Jews, no news. Il y a des pays qui aimeraient qu'on ait un peu un coup de projecteur sur leur malheur et leur souffrance.
Arthur, rassemblement ce soir à Marseille, sioniste hors de notre ville.
Mais c'est
à l'appel d'un collectif qui s'appelle Culture en lutte et qui demande à ce qu'il y ait une manifestation contre la venue du dessinateur Johann Sfar. Vous parlez des nouveaux inquisiteurs.
Alors, c'est complètement dingue. D'abord, en plus, alors là, franchement, s'attaquer à Johann Sfar, qui est un homme qui prône la paix, qui est un homme qui, tous les jours, fait des dessins contre Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que c'est l'allié de ceux qui viennent manifester contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, cette nouvelle inquisition, elle est dans la musique, elle est dans le cinéma, elle est dans le sport. Je veux dire, aujourd'hui, on refuse qu'un chanteur puisse se présenter à l'Eurovision, on refuse qu'un chef d'orchestre vienne à la Philharmonie, on refuse que l'équipe de France joue contre l'équipe d'Israël. Je veux dire, c'est la nouvelle, comme vous dites, la nouvelle inquisition. C'est la nouvelle inquisition. Mais il y a quand même un petit Roland, parce que vous y avez marqué anti-sioniste.
Le titre du flyer qui invite à cette manifestation, c'est « Sioniste hors de notre ville ».
Mais ça veut dire quoi, sioniste? Le sioniste, c'est le droit à l'autodétermination. Vous pensez que c'est ça, ça veut dire ça, l'affiche? Vous pensez que ça veut dire vous êtes pour le droit à l'autodétermination, donc hors de notre ville? Arrêtons. Ils mettent sioniste parce qu'ils n'ont pas le courage de dire juif.
Pour vous, en réalité, c'est juif.
Mais bien entendu,
c'est ça.
Bien sûr, vous pensez que quand les jeunes dans une manifestation, vous allez les voir écrit, il dit je suis contre les sionistes. Vous pensez que c'est contre la réalité du sionisme?
Votre lecture, d'ailleurs, de ce mot sioniste est visiblement la même que celle du maire de Marseille, Benoît Payan, qui refuse de céder à ces appels au boycott et qui a dit nous ne trierons pas les artistes en raison de leur origine, leur religion ou leur couleur de peau.
Mais oui, mais c'est normal. Qui plus est des artistes français?
À Grenoble, c'est la DJ Barbara Butch que des groupes militants demandent à la mairie de déprogrammer. Elle est militante LGBT. Elle avait été ciblée par l'extrême droite qui l'avait vivement attaquée au moment des Jeux Olympiques de Paris. Elle était la figure centrale de ce festin qui était une reconstitution de la scène de Léonard de Vinci. Et désormais, c'est donc la section grenobloise de la France Insoumise qui s'attaque à elle, qui demande le boycott de sa participation à ce festival à Grenoble, parce qu'elle a signé une tribune que vous aviez vous-même signée pour soutenir la loi Yadan contre l'antisémitisme.
Et vous imaginez un peu où on en est? Imaginons, on a l'extrême gauche qui est censée lutter contre toutes les formes d'impérialisme et qui utilise exactement les mêmes méthodes. Si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes soit un facho, soit vous êtes à boycotter. Je veux dire, c'est une forme. Et cette inquisition dont vous parlez, elle est digitale, elle est, on la sent, on la vit. Il y a beaucoup de comédiens juifs qui n'ont pas de travail aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes qui ne trouvent pas de travail. Moi, j'ai un ami comédien à qui on a proposé un film, et c'est un grand comédien. Et la réalisatrice lui a demandé, avant de te donner le rôle, je voudrais connaître tes positions sur ce qui se passe à Gaza.
Ça, c'était un film qui n'avait rien à voir?
Rien à voir, strictement rien à voir. Une comédie romantique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il faut se le dire, il y a un antisémitisme qui déferle en France, et il faut ouvrir les yeux et lutter contre.
Vous racontez dans votre livre ce que quelques artistes vous ont dit. Si je viens, je vais me faire cancel par ma communauté.
Oui.
Vous parlez de carrières qui sont prises en otage par la lâcheté collective, un pseudo-boycott rampant et insidieux. Ça, c'est pas avec des affiches, mais
alors,
c'est beaucoup plus rampant.
Ça, c'est un truc tout nouveau. Je parle de trois artistes. Hein. Trois artistes amis qui m'ont appelé pour me dire « Je ne peux pas venir faire ton émission, parce que si je viens faire ton émission, je vais me faire massacrer par ma communauté. » C'est-à-dire que eux ont envie de faire l'émission, mais sous la pression de leur propre communauté, ils ne viennent plus faire l'émission. Il est violent ce boycott. Parce que je préférais le boycott du mec qui a une opinion et qui dit « Moi, je veux pas faire tes émissions, je suis pas d'accord avec toi. » Mais là, c'est
parce
un
que
boycott.
L'opinion, ça se combat.
En fait, on
peut écrire des livres,
on peut dialoguer. Exactement. Mais là,
Et d'ailleurs, vous dites, je leur ai répondu, je comprends, trois petits points.
Mais exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui me dit, je suis menacé de mort quand je fais tes émissions de télé? Eh ben, ne les fais pas. Donc, ça veut dire que c'est un boycott de la pression de la communauté.
C'est ça
qui est plus dangereux.
Est-ce que ça veut dire que la pression de la communauté, c'est aussi une forme de marketing? Est-ce que désormais, l'antisémitisme, c'est un marketing? Est-ce qu'il y a des parts de marché par communauté?
Écoutez, je sais pas, je ne crois pas, franchement, et je ne veux même pas l'imaginer. C'est pas le monde qu'on a envie de laisser à nos enfants. Mais disons qu'il y a une infime, il y a une minorité qui est très bruyante et qui est très influente et qui met la pression, bien sûr.
La pression, elle se ressent comment? Est-ce que vous, vous la ressentez aussi?
Non,
ou est-ce que vous, personne
pas.
Ne vous l'a jamais mise?
Moi, personne ne me l'a mis. Franchement, objectivement, j'ai pas ressenti ce type de pression. Si je reçois de la pression, c'est parfois de ma communauté, parce qu'il m'arrive de dire que je suis pas en accord avec Benjamin Netanyahou et que mes amis fâchent m'engueulent. Mais pour le reste, non.
Mais pour le reste, personne ne vous a jamais reproché de ne plus être le même Arthur.
Ah, je m'étais dit à un moment peut-être que TF1 allait me dire, écoute, il va falloir que tu choisisses, est-ce que t'es un entertainer ou est-ce que tu veux prendre des positions? Et en fait, non, parce que je crois avoir réussi à manager les deux. Je continue à animer des émissions de télé, je continue à faire rire les gens, mais je suis aussi quelqu'un qui a le droit d'exprimer ce qu'il ressent, surtout à mon âge. C'est un moment où on peut pas rester
vous
silencieux.
Vous espérez quoi? Vous attendez quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a un tout petit peu plus d'espoir dans ce livre-là que dans le précédent. Avec peut-être aussi l'idée de dire merci aux Français, parce que vous avez été impressionné. D'abord, il faut le dire, votre premier livre, ça a été un énorme succès, 80 000 exemplaires vendus, parce que les Français sont toujours au rendez-vous quand ils vous regardent à la télé. Est-ce que ça, au fond, vous vous dites pas, bon, peut-être que je regarde les choses
exactement
sur une lunette, avez... mais que bon, la France est là, les Français
exactement
sont là.
Exactement, vous avez entièrement d'accord, vous avez entièrement raison. Dans mon premier livre, je me plaignais d'un manque d'empathie, et en fait, après la sortie du livre, eh bien, j'ai rencontré des gens, je suis allé en tournée dans toute la France, et j'ai vu des sourires, des regards, j'ai reçu des mots qui m'ont réconcilié avec ce que je pensais être un abandon de la France envers les Juifs. Et en fait, j'ai découvert que la France n'est pas un pays antisémite, qu'il y avait une minorité d'antisémites et qu'elle était trop bruyante et qu'il fallait la faire taire maintenant.
Arthur, vous avez parlé du boycott, évidemment, sur ces questions, ce boycott insidieux. Il y a une autre forme de boycott aujourd'hui, qui est un boycott aussi sur les questions judiciaires. Je ne voudrais pas finir cette émission sans vous interroger sur Patrick Bruel. Il a plusieurs fois fait des émissions avec vous. On a appris hier soir que RFM allait cesser de diffuser ses chansons, que Nagui le retirerait de N'oubliez pas les paroles, du catalogue de N'oubliez pas les paroles. Il nie, Patrick Bruel, mais il est accusé par le témoignage d'une trentaine de femmes et d'une dizaine de plaintes qui ont été déposées et d'enquêtes qui sont ouvertes. Est-ce qu'il faut continuer à jouer Patrick Bruel sur la radio? Est-ce qu'il faut continuer à avoir Patrick Bruel dans le catalogue des émissions? Ou est-ce que vous comprenez les décisions de RFM ou de Nagui?
Je crois qu'il faut d'abord, avant tout, respecter les victimes, mais aussi respecter la présomption d'innocence et laisser les juges faire leur travail. Qui suis-je pour dire s'il a raison, s'il a tort? J'en sais rien. Je dis juste que peut-être que c'est un peu prématuré, la décision de Nagui. Voilà. Mais une fois de plus, je ne suis pas juge.
Nagui qui dit « Les émissions actuelles ont été enregistrées avant le dépôt des plaintes, mais depuis, nous avons suspendu en attendant la décision de justice. J'ai toujours soutenu la défense des enfants et des femmes victimes de violences, et quand la justice condamne, nous prenons les décisions qui coulent de source. »
Mais il a été condamné ?
De fait, non.
Ben voilà.
Agnès Jaoui, à l'inverse, dit « Ça ne me choque pas qu'il soit sur scène et que des gens aillent aient le droit d'aller le voir. On n'a pas à les en empêcher, c'est à eux de se déterminer. Je suis absolument pas pour la censure. Je suis contre cette folie purificatrice. » Est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots d'Agnès Jaoui?
Je suis d'accord. Tant que la personne n'est pas condamnée, il n'y a pas de raison qu'on puisse l'empêcher de faire son travail. Pour quelle raison?
Mais quand la justice est très longue, quand les témoignages sont nombreux...
Mais pour l'instant, il n'est pas condamné. Maintenant, si vous allez voir un spectacle d'un artiste, quel qu'il soit, et qu'il y a une suspicion, c'est votre responsabilité. Vous le savez. Franchement, je pense que tous les fans de Patrick Bruel sont au courant de la situation. Donc, s'ils continuent à aller le voir, c'est leur droit aussi. Je ne veux pas rentrer dans ce type de débat parce que ça devient très radioactif très vite. Mais
et d'ailleurs, vous dites « je suis radioactif ».
Oui, oui. Mais voilà, il faut avant tout penser aux victimes et avant tout... laisser la justice faire son travail.
Et d'ailleurs, une information à BFM TV à l'instant, Patrick Bruel qui confirme une information de Mediapart, Patrick Bruel ne participera pas à la prochaine édition des Enfoirés, en accord d'ailleurs avec la production artistique de l'émission. Merci Arthur d'avoir répondu à mes questions
Merci
ce matin.
Beaucoup.
Arthur J. Essebag, c'est comme ça que vous signez votre livre. Vous aviez besoin qu'on sache votre nom parce que votre nom...
Oui, c'est important. Je m'appelle Jacques et depuis 30 ans, on m'appelle Arthur et je me réapproprie quelque part mon identité, la vraie, au travers de ce livre.
Même la nuit ne veut pas de moi, cette audition.
Merci à Pauline.
Grasset, il est 8h47 sur RMC BFM TV. Ne bougez pas sur RMC, dans un instant, la semaine face à Cantelou. Nicolas Cantelou qui revient notamment sur le début de Roland-Garros.
RMC. Une semaine face à Canteloup.
Cette semaine, Pascal Prache, le procureur du parquet national financier, était mon invité dans le face-à-face. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a voulu réagir.
Oui, bonjour Madame Balerbe.
Oui.
Oui, c'est moi, Gérald Madame. Béa Deyed. Mais détendez-vous, Madame Balerbe, ça va bien se passer. Oui, j'ai écouté attentivement Pascal Prache, le jeune et brillant procureur du PNP.
PNF.
Non, c'est du PNP. C'est le parquet national financier.
Ah oui.
celui qui traite, tout le monde l'a compris autour de cette table, qui a des journalistes, c'est évident, monsieur Debade, monsieur Chypre, monsieur Bureau, bien sûr, celui qui, bien sûr, traite toutes les affaires financières. Bref, en un mot, celui qui traite toutes les malversations concernant les finances publiques. Et j'ai bien compris, bien sûr, que l'enquête qui touche Édouard Philippe est une enquête importante, une enquête qui était d'ailleurs un passage obligé pour monsieur Édouard Philippe.
Oui, enfin, pour être sûr qu'il soit blanchi avant de se lancer à la présidentielle.
Non, mais écoutez, blanchi ou pas, peu importe pour Édouard Philippe. L'essentiel, c'est qu'il est une affaire au cul. Ben, vous savez que chez nous, à droite, il n'y a pas de carrière possible sans avoir sa petite affaire judiciaire. Ce ne sera pas le premier et pas le dernier, certainement. Regardez Nicolas Sarkozy, Patrick Bacadi, François Pillon. Bisortefeu. Et aujourd'hui, voilà, Édouard Philippe.
Voilà. Il y a eu une perquisition à l'Élysée aussi, quand même, dans le cadre de l'attribution du marché des panthéonisations. Chaque panthéonisation coûte 2 millions d'euros.
Non, mais écoutez, sur ce sujet, on va pas bégoter quand il s'agit de nos grandes figures françaises. Prenez par exemple l'exemple de Madame Bey.
Madame Bey.
C'est Madame Bey.
Madame Bey.
Non, pas la maman d'Abib Bey, l'entraîneur de l'OM. Non, je parle de Simone Bey.
Ah oui, Simone Bey, bien sûr.
L'avortement. Voilà. Bon, Simone Bey, on n'allait pas lui faire une panthéonisation au rabais. On n'allait pas acheter, des chipsters de l'Oasis et des apéricubes pour faire un petit cocktail. Non. Et bâcler la bise en bière dans une caisse en sapin. Non. Alors, oui, on aurait pu faire. C'est vrai, de substantielles économies si on avait confié le marché à monsieur de Ligonnès pour qu'il l'enterre sous une terrasse. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on honore l'écran de notre République? Je ne le crois pas, madame de Malherbe.
Merci beaucoup, monsieur Darmanin. Monsieur le ministre.
Mais détendez-vous, madame Malherbe. Vous voyez, l'interview est finie, tout s'est bien passé.
La maison du général de Gaulle est à vendre. Bonjour, Dominique de Villepin.
Bonjour. Écoutez, vous le savez, je suis un admirateur du général de Gaulle. Et je pense que ça aurait été réciproque si le général de Gaulle avait eu la chance de me connaître. Je le dis haut et fort, ici devant vous. Il faut tout faire pour sauver l'héritage patrimonial du général de Gaulle. Alors moi, le premier grand gardien de la conscience gaulliste, moi, le dernier rempart contre l'effacement de ce qui a fait la France, je ferai tout, madame de Malherbe. Oui, tout ce qu'il m'est possible de faire pour habiter la maison du général.
Pour habiter la maison, vous allez vous installer à Colombey-les-Deux-Églises?
Non, je parlais de l'Élysée.
Ah oui.
L'Élysée outragé, l'Élysée brisé, l'Élysée martyrisé, mais l'Élysée bientôt libéré et habité. Oh, salut là, Pauline.
Salut toi.
Hey. Chapeau la Malherbe, ça c'est une bosseuse. Hein, elle a pas le temps de traîner, d'aller voir les matchs à Roland. Du coup, c'est Roland qui vient. Hey. Hein, voilà. Et oui, parce que tu sais, le gars Lescure, c'est un collègue. On a dirigé la même boîte, Bercy. À Pau, avec toi aussi, on est des collègues. Hein, aujourd'hui, on bosse dans la même boutique. BFM, voilà. T'as vu comment je suis arrivé à BFM, moi, en star. Hein, carrément, avec mon émission à mon nom, Made in Montebourg.
C'est vrai que c'est chiant.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi qu'elle cartonne mon émission. C'est parce que c'est un concept totalement original. C'est un gars, Bibi, qui reçoit d'autres gars pour débattre avec eux. Hein, ouais. Et ça fait la différence.
Ah bah c'est sûr, animateur télé, bon, donc pour vous, c'est nouveau.
Bah oui, tu vois, télévision, économie, miel, glace, amant, tu vois. Je suis une sorte de touche à tout, tu vois. Une sorte de brouelle, mais sans les mains. Si je devais me résumer en une phrase, même si c'est difficile de me résumer en une phrase, tellement le spectre est large, tu vois. Cette phrase, c'est plus une maxime, et chaque matin, je me répète cette phrase. Je me dis, tu sais, Arnaud, c'est pas parce que t'es excellent nulle part que ça doit t'empêcher d'être à l'aise partout.
Oui, c'est une belle devise. Le tournoi de Roland-Garros a donc démarré dimanche. Yannick Noah, bonjour. Alors, bon, que pensez-vous des joueurs français?
J'ai paumé mes feuilles. Ouais, non, ça y est, j'ai retrouvé ma feuille. Il n'y en a qu'une qui est importante. Ça va, Pau? Ça dérange si j'enlève mes chaussures?
Non, non, pas du tout, vas-y.
Tu devrais le faire aussi, on est tellement mieux quand on vit pieds nus. Mm. C'est ce que je disais à Emmanuel Le Chypre. Écoute, Pau, tu veux vraiment qu'on parle des joueurs français?
Bah ouais, quand même, non?
Non, parce que franchement, ce matin, on est cool, on s'est réveillé de bonne humeur, vois, il fait beau. Mm. Le ciel est bleu, donc évitons tout ce qui peut générer de l'énergie négative ou même de la tension dans les trapèzes, tu vois.
Même.
Parle-moi d'autre chose que des joueurs français.
Mais vous, Yannick Noah, vous voulez pas parler de des joueurs français? Vous voyez pas un Français l'emporter cette année?
Arrête, Apo. Là, t'es en train de me boucher un chakra. Va falloir encore que j'écoute des chants de baleine. Non. Si vraiment tu veux que je te dise un truc positif sur les joueurs français, oui. Je pense qu'ils peuvent aller très loin en deuxième semaine. Par exemple, à Punta Cana ou au Maldives. Après, ça te fait sortir dès le premier tour.